ton intelligence et que nous puissions apprendre la langue du ciel, afin d'abord de pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire, puis de pouvoir aussi transmettre, communiquer les choses célestes aux âmes que nous rencontrerons pour la gloire du Père. Amen. Eh bien, mes amis, dans cette journée du 18 août, continuant notre étude sur les droits du Fils de l'homme, et ayant pour toile de fond l'Épître aux Hébreux, nous commençons ce matin la deuxième partie de cet épître, qui est la partie pratique et qui doit nous apporter des choses merveilleuses qui ont pour base la partie doctrinale qui nous a occupé dans la première semaine. Alors maintenant, je vous demande les résultats de vos recherches.
C'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus.
Je suis vraiment réjoui de voir que vous commencez à comprendre cette langue du ciel, ce langage spirituel, et que réellement les Écritures s'ouvrent pour vous. Jésus ressuscité ouvrait les Écritures aux disciples d'Emmaüs dans le chapitre 24 de Luc, et il leur ouvrait l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre le message des Écritures. Alors, ce qu'il a fait pour les apôtres, qui n'avaient pas compris, après 3 ans d'études, aux côtés de Jésus, bien, il veut le faire pour nous. Et si nous sommes dociles, eh bien, en une seule semaine, il peut nous faire apprendre la langue du ciel. Mais après, il faut pratiquer, parce qu'on oublie. C'est la même chose. Donc, vous l'avez compris, jusqu'au verset 18 du chapitre 10, on avait la partie doctrinale, proprement dit, de cet épître aux Hébreux. Et à partir du verset 19, nous voyons que le grand sujet de cette épître, qui était la sacrificature de Christ dans la gloire, se termine et qu'on arrive donc à la conclusion pratique de ce qui a été enseigné touchant cette sacrificature, touchant la perfection du sacrifice du Christ, qui est assis maintenant à la droite de Dieu. Le péché étant ôté, la conscience étant purifiée, les croyants étant rendus parfaits à perpétuité, sans péché aux yeux de Dieu, ont une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Il n'y a plus de barrières, plus d'obstacles, plus rien qui interdisent l'accès dans le sanctuaire. Le sang de Jésus satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu. Et le sang, quand on parle du sang, le sang, la définition du sang dans le Lévitique, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le Seigneur nous a rachetés par son sang, ça veut dire en donnant sa vie. Donc le prix de notre salut, quand on parle du salut, c'est quoi? C'est de l'argent, de l'or, des pierres précieuses? Non, c'est Pierre lui-même qui le dit. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Comme d'un agneau préconnu dès avant la fondation du monde, pour être manifesté au temps propre. Donc, quand on vous dit que le salut est gratuit, c'est gratuit pour vous, c'est une grâce, mais il a coûté quoi ce salut? La vie de Jésus. Le prix de la grâce, c'est la vie de Jésus. Alors, soyez conscients de cela, et c'est pourquoi il est question dans cet épître d'un si grand salut. Mais, si vraiment ce salut est si grand, vous devez en contempler les dimensions. C'est pas le salut, je n'irai pas en enfer. C'est que ça qui vous intéresse? Non. Le si grand salut, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et tout ce que cet amour de Dieu vous apporte. Alors, un homme qui se dit sauvé, qu'est-ce qu'on devrait voir en lui d'abord? L'amour de Dieu. Et qui c'est l'amour de Dieu? C'est Jésus. L'amour d'une femme qui est mère, c'est son enfant. L'amour de Dieu qui est père, c'est son fils. L'amour de Dieu. Que c'est merveilleux. Alors, le salut dont nous devons jouir, c'est plus que, comme je dis souvent, c'est pas un billet de chemin de fer pour le ciel. Billet en première classe ou en wagon-lit. Ce n'est pas un passeport signé ou ayant un visa pour le ciel. Ce n'est pas une police d'assurance contre l'incendie éternel, contre l'enfer. Le salut, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Et tout ce que nous donne Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Alors, ce salut concerne toutes les parties de votre vie. Et vous devez en jouir. Le péché est ôté. C'est une question réglée, finie, aux yeux de Dieu. Votre conscience, elle est purifié. Alors vous avez une bonne conscience, vous pouvez respirer. Et elle est tellement guérie qu'elle n'a plus conscience de péché. C'est quelque chose de merveilleux. Les croyants sont rendus parfaits à perpétuité. Ça veut dire à perpétuité pour toujours. On ne reviendra pas sur la question. Ça a été jugé définitivement. C'est sans appel. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et alors, étant sans péché aux yeux de Dieu, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, donc plus de barrières. Et tout cela grâce au sang qui a été versé. La vie de Jésus était si parfaite aux yeux de Dieu que cette seule vie a racheté les fautes non pas seulement d'un homme, mais de l'humanité tout entière. Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme, la grâce de Dieu s'est manifestée. La justice de Dieu a été satisfaite par la vie de Jésus. Et alors, on peut non seulement entrer dans la présence de Dieu sans voile, mais on peut y demeurer sans crainte, dans une paix parfaite. Et vous le savez, ce privilège d'entrer dans la présence de Dieu, pour les Juifs, il n'était réservé autrefois qu'au grand souverain sacrificateur. Alors, la valeur du sang, là alors, je ne vais pas non plus entrer dans le détail, parce que je ne suis pas dans le monastère du précieux sang, mais quand on m'a demandé d'aller parler aux sœurs cloîtrées du précieux sang, elles s'appellent les sœurs cloîtrées du précieux sang, il y a un monastère à Montréal, il y en a un à Saint-Hyacinthe, je crois qu'il y en a 6 au Canada. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de leur parler du précieux sang. Alors, elles étaient bleues. Je pensais que, oui, je savais cela. Toute la valeur du précieux sang du Christ. Et j'aurais fait une étude en 12 points, parce que là, avec les sœurs cloîtrées du précieux sang, elles sont déjà dans l'éternité, hein. Pour elles, comme à Saint-Benoît, ils disent, nous sommes déjà dans l'éternité, eux, hein. Ils ont renoncé au monde, alors, on peut faire des réunions plus longues. Et alors, quand on voit cette soif que ces sœurs avaient, je m'y oubliais. Ah, j'ai fait des folies. Parce qu'on était déjà dans le ciel, parce qu'il y avait une telle communion. Elle mangeait la parole de Dieu. Le sang, le prix du sang, c'est merveilleux. Par le sang, nous sommes approchés, premier point. Par le sang, nous sommes lavés. Par le sang, nous sommes rachetés. Par le sang, nous sommes pardonnés. Par le sang, nous sommes réconciliés. Par le sang, nous sommes justifiés. Puis alors, on étudie ce que veut dire ces mots. Par le sang, nous sommes purifiés actuellement de tout péché. Par le sang, nous sommes sanctifiés. Par le sang, nous sommes déculpabilisés. Par le sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang, nous avons la paix. La paix que nous avons, elle repose sur le sang de Christ. Il a fait la paix par le sang de la croix. Et puis, on arrive à l'Apocalypse, 12e point, par le sang, nous avons la victoire sur la puissance de l'ennemi. Eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le précieux sang, la valeur du sang. Vous pouvez étudier cela. Alors maintenant, quelle est cette route nouvelle et vivante? Je suis heureux de voir que vous avez bien saisi. Cette route nouvelle et vivante qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire, qui est-ce qu'il a inauguré pour nous? C'est Jésus. Alors, cette route, ce chemin, c'est sa chair. C'est l'humanité du Christ. Il a pris notre humanité. Il était dans la gloire. Et il s'est abaissé, il s'est anéanti. Il a revêtu notre corps, un corps de chair qui a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Mais il a paru ici-bas comme un simple homme. Et alors, son abaissement était un voile qui cachait sa gloire divine à l'homme pécheur. C'est pourquoi beaucoup ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il avait dû voiler sa gloire. Si le Seigneur était apparu simplement comme fils de Dieu, dans la plénitude, dans le plein éclat de sa gloire, qu'est-ce qui serait arrivé? Tous seraient morts. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, pour vivre au milieu des hommes qui disaient, ben, si Dieu existe, qu'il se montre, ces insensés. Parce que si Dieu se montrait, qu'est-ce qu'il arriverait? Toute chair expirerait ensemble. On n'est pas même capable de fixer le soleil, parce qu'on est aveuglé. On doit changer de place au bout d'un moment qu'on est au soleil, tout en aimant beaucoup le soleil. On ne peut pas être trop longtemps au soleil. Puis on voudrait voir le créateur du soleil, comme il est bon de se cacher quelquefois, et de ne pas répondre à nos prières. Si Dieu existe, qu'il se montre. Creuse ta fosse. Prépare ton cercueil. Parce que s'il se montre, tu iras dans le trou. Comprenons bien cela, l'amour de Dieu. Mais alors, au risque de ne pas être connu, le Fils de Dieu a voilé sa divinité par son humanité. Mais à travers son humanité, on pouvait voir par ses miracles déjà des rayons de sa divinité. C'est quelque chose de merveilleux, ces deux natures. Donc son abaissement était un voile qui cachait sa gloire divine à l'homme pécheur. La foi seule discernait. Et Marie de Béthanie avait discerné qui était réellement Jésus, comme la femme samaritaine aussi. Mais à la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Et cela, ça s'est fait aussi au temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Le péché a été ôté par la mort de Jésus. Il était l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Comment l'ôter ? Il fallait qu'il le prenne sur lui, puis pour ôter quelque chose du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter le monde, il faut mourir. Eh bien, c'est pour ça qu'il disait, il fallait que le Christ souffrit ces choses. Il était nécessaire qu'il meure. Père, l'heure est venue, mais mon âme est troublée, mais pourtant c'est pour cette heure que je suis venu. Comprenez-vous, on rejoint le message de hier soir. Et alors, il accepte de mourir. Le voile est déchiré. Il est ôté. Et dans le Christ ressuscité et glorifié, dans le Christ à la droite de Dieu, l'homme, par la foi, peut contempler la gloire de Dieu, et bien plus encore que contempler la gloire de Dieu, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre contempler la gloire de Dieu, comme Ésaïe contemplait la gloire du Seigneur dans son temple, et être dans sa présence. Alors, vous voyez jusqu'où ça vous mène. Le si grand salut de Dieu ne vous permet pas simplement de contempler la face de Dieu en Christ, ou les perfections divines sur la face du Christ, mais vous introduit dans la présence même de Dieu. Alors voilà le chemin. Jean 14, verset 6. Le chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin. L'Épître nous avait montré Christ entrer une fois dans les lieux saints, une fois pour toutes, chapitre 9, verset 12. Maintenant, ce sont les rachetés qui sont exhortés à le suivre par le chemin qu'il leur a ouvert lui-même. Alors, ce chemin, il nous l'a ouvert par sa mort. Si nous voulons le suivre, nous aussi, nous entrons dans sa mort, symbolisée par le baptême, et puis, nous en sortons dans sa résurrection, par sa résurrection, et le Christ ressuscité s'en va où ? À la droite du Père, Et celui qui suit le Christ, il est emporté déjà par le Christ à la droite du Père, de sorte que, comme nous le disions les jours derniers, notre enlèvement spirituel, il a déjà eu lieu. Nous sommes dans le céleste, nous ne sommes plus du monde, nous sommes bourgeois des cieux, gens de la maison de Dieu. Le Seigneur nous a ouvert le chemin, et puis maintenant, nous suivons ce chemin, et nous sommes là où il se trouve. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors, il est dit que c'est un chemin nouveau, parce que jamais auparavant, il n'avait existé. Un chemin nouveau, c'est un chemin qui n'existait pas avant. Ce chemin n'avait jamais existé, voilà pourquoi il est nouveau. Il n'avait pas existé, puisque l'entrée des lieux saints, sur l'entrée des lieux saints, il était mis « entrée interdite ». Alors, il n'y avait pas de chemin pour y aller, c'était inutile, l'entrée était interdite. Mais maintenant que l'entrée a été ouverte par Jésus, il y fallait faire un chemin. Comme on a fait une fois que l'aéroport de Mirabel a été construit, on a fait maintenant une route pour nous rendre là, et c'est une route nouvelle. Eh bien voilà, c'est parce que quelque chose de nouveau a été fait qu'il y a une route nouvelle. Maintenant, elle est vivante, c'est un chemin vivant, puisque le Christ, après avoir passé par la mort, est maintenant ressuscité, est dans la puissance d'une vie impérissable, il vit au siècle des siècles dans sa gloire. Sa mort était nécessaire pour expier nos péchés, mais maintenant sa vie en résurrection et dans la gloire, elle n'est pas moins nécessaire pour nous introduire où il est. Il est toujours vivant. Hein? Voilà pourquoi c'est une route vivante. Et comme vous l'avez souligné, il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Alors vous voyez les privilèges que nous avons, parce que sous l'ancienne alliance, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer combien de fois ? Une fois l'an. Tandis que nous, nous y sommes tous les jours. Nous y sommes toujours. Nous pouvons être là 24 heures sur 24 heures. Parce que quand on est en Christ, tout se passe dans le Christ. On se réveille en Christ. On se lave en Christ. On se rase en Christ. On se coiffe en Christ. On se brosse les dents en Christ. Hein? Il a parlé de tout ça, le Seigneur. Et puis, oui.
En parlant du voile, justement, de l'action sanctuaire, il y a une question qui s'est posée tantôt. Quand Christ aborde le voile du temple déchiré, est-ce qu'à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui est rentré physiquement par là, il ne peut rien passer? Une question qui s'est posée,
mais... Tu sais, je ne veux pas faire des suppositions, mais si. Ils l'ont constaté que le voile était déchiré, ils l'ont recousu. Mais il s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui montre bien que ça venait d'en haut. Maintenant, c'est fini cette économie-là, et le voile se déchire. Ils peuvent le remettre, mais il y a eu un témoignage qu'il y avait, au fond, c'était la fin de cette économie. Mais je ne pense pas que là, quelqu'un serait mort, puisque le Christ était mort. C'était plus le jugement. Mais avant, il serait mort, si quelqu'un était entré. Mais du moment qu'il se déchirait, eh bien, c'était que l'entrée était ouverte. Et que c'était plus la mort qui allait le frapper, mais c'était la grâce. Alors maintenant, ce n'est plus une question que le seul souverain sacrificateur pouvait entrer, mais ce sont tous les rachetés. C'est plus le prêtre seulement, c'est tous les rachetés qui ont cette possibilité d'entrer dans le sanctuaire. Et on le fait avec une pleine liberté, car on n'a plus la conscience du péché. Nous sommes même libérés de cette conscience du péché. Et de plus, nous trouvons un souverain sacrificateur et un avocat qui est établi pour nous dans le sanctuaire et qui nous représente dans le lieu saint. De sorte que nous sommes vraiment couverts, complètement. Est-ce qu'il y en a encore qui doutent de leur salut en Jésus-Christ, après cela? Comment? Ça vient du diable. Vous offensez Dieu et vous n'honorez pas le Seigneur quand vous doutez d'un tel salut. Vous offensez Dieu parce que pour vous sauver, qu'est-ce qu'il a donné? Ce qu'il avait de plus cher. L'amour de Dieu vous a été donné, son Fils. Et vous ne croyez pas que son Fils est assez parfait pour vous sauver entièrement? Au lieu de regarder ce que vous êtes, mais si vous aviez été autre chose, est-ce que vous auriez eu besoin d'un sauveur? Bien sûr que non. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Alors si vous vous voyez très malade, c'est que vous avez besoin d'un très grand sauveur. Et il est un petit sauveur ou un grand sauveur? Un grand sauveur. Quand vous êtes devant un docteur, eh bien, il est peut-être grand, mais il ne peut pas tout. Devant certaines maladies, c'est incurable. Est-ce qu'il y a une maladie incurable pour le Seigneur? Non. Alors, vous avez un salut total, un salut complet. C'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous le croyez? Ou bien est-ce que vous avez un petit bon Dieu? Le bon Dieu. Je n'aime pas cette expression. Dieu est bon. C'est tout différent. Hein. Vous comprenez la nuance? Le bon Dieu, le bon Dieu. Dieu est bon. C'est plus viril. J'ai dit de... Alors, maintenant, c'est plus permis les doutes. Puis vous n'allez pas toujours revenir en arrière. On va en avant. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle s'est retournée. Est-ce que vous voulez devenir une statue de sel? Sur un chemin vivant, qu'est-ce qu'on fait? En avance. Et puis, si vous avez péché, qu'est-ce que vous savez? Vous avez perdu votre salut? Non, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui monte son sang et qui dit, j'ai payé. Et quand vous confessez votre faute, le sang est là, présenté par le Seigneur, et la joie du salut vous est redonnée par le Père. Ce que vous perdez quand vous péchez, ce n'est pas le salut, c'est la joie, c'est la communion avec le Seigneur. Mais la relation dans laquelle vous avez été placé par Dieu, c'est une relation qui ne peut pas être brisée, c'est la relation d'enfants avec leur père. C'est clair? Alors jouissez de votre salut et n'offensez pas le Seigneur Jésus en ayant des doutes. C'est une offense. Vous déshonorez le Seigneur quand vous doutez de lui. C'est comme un enfant qui douterait de l'amour de sa mère. Il déshonore sa mère. Un enfant qui doute de l'amour de son père, il déshonore aussi son père. Eh bien, ne déshonorez pas le Seigneur par vos doutes. Les doutes viennent de qui? De Satan. Et Satan, qu'est-ce que Jésus dit qu'il est? Un menteur. Un meurtrier dès le commencement. Il n'y a que lui qui a intérêt à vous faire souffrir et à vous faire croire que vous serez damné. Pour quelle raison? Puisqu'il ne peut pas vous perdre dans l'éternité, vous avoir avec lui dans son lieu de tourment, il essaye de vous tourmenter dans la vie présente. Il essaye de détruire votre joie. Eh bien là, vous dites non, car Jésus a dit, ma joie je vous l'ai donnée, et que personne ne vous ôte votre joie. Personne. Nous disons non aux dépressions, parce que nous avons un grand sauveur. Et au lieu de nous demander, de nous dire, mais moi je suis dans une situation épouvantable, vous vous dites, comment va-t-il s'y prendre pour me sauver de cette situation-là, actuellement? Parce qu'on est sauvé tous les jours. Comprenez-vous? C'est cela qui m'agace quand j'entends, moi je suis un sauvé depuis 4 ans, ou je suis un sauvé depuis 20 ans, moi je pourrais vous dire, alors que je suis un sauvé depuis combien? Mais je m'en vais vous écœurer. Je serai écœurant avec vous. Je vous dis que je suis sauvé depuis l'éternité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous allez dire qu'il est devenu orgueilleux, Racine? Notre salut a été voulu par Dieu depuis quand? Oui, mais je l'ai appris seulement en 1931. Hein? J'ai appris cela. C'était une nouvelle fantastique parce que juste pas à ce moment-là, en 31, je me croyais perdu. C'est quand je me suis vu perdu et cru perdu que j'ai su que j'étais sauvé, mais pas avant. C'est ça qui est merveilleux. Voilà la bonne nouvelle. Voilà ce qui vous libère. Dieu vous a aimé de toute éternité. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Aujourd'hui, prenez conscience de cela. Et alors, cette certitude entre dans votre cœur. Il vous aime comme vous êtes. Et ce qu'il a fait, c'était définitif. On ne peut pas faire plus que donner sa vie. Eh bien, cette vie, il l'a donnée. Et ce n'était pas la vie d'un taureau. Ce n'était pas la vie d'un bouc. Ce n'était pas la vie d'un agneau sans tache seulement. C'était la vie du Fils de l'homme, qui était le Fils de Dieu. Alors, si vous êtes sauvé par le Fils de Dieu, est-ce que vous pouvez encore avoir des doutes? Pas possible. Alors, vous commencez à relire l'épître aux Romains qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Qui accusera des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est-ce qui condamne? Il n'y en a qu'un qui peut condamner, qui a le droit de juger, c'est le Christ. Mais justement, ce Christ, il est mort pour vous. Celui qui pouvait vous condamner a donné sa vie pour vous. Alors maintenant, que fait-il? Il intercède pour vous dans la gloire. Vous avez un intercesseur, quelqu'un qui prie pour vous. Et celui qui prie pour vous, c'est celui qui est toujours exaucé. Alors, que voulez-vous de plus? Adorez, adorez, adorez. On est bouleversé, on est inondé. Alors on adore. Qu'est-ce que c'est adorer? C'est lui dire, Seigneur, je ne comprends pas. C'est fou l'amour que tu as pour moi. Puis on se met à pleurer. Parce que quand on se laisse pénétrer de ces choses, par ces choses, eh bien c'est la coupe qui déborde. Il y a un débordement, mais l'adoration, c'est pas faire des phrases pour adorer, mais Seigneur, c'est fantastique. C'est tellement merveilleux. Je n'ai pas de mots. Alors peut-être que vous parlerez en langue. Ça peut devenir tellement grand, mais vous n'allez pas essayer de vous exercer. Mais vous allez dire, c'est beau. On n'a plus de souffle. C'est ça l'adoration. Comme on est loin de ces prières d'adoration fabriquées, hein, où c'est intellectuel. Alors c'est peut-être un bégayement, mais c'est merci Seigneur. Mais c'est vrai, hein, pour une fois c'est le fond du cœur qui crie ça. Tout ce que Dieu vous demande, c'est pas de savoir bien vous exprimer, c'est de lui dire. Merci. Vous savez ce que c'est ? C'est les exercices que nous apprend Cathy. Elle nous fait dire merci. Cathy aussi, ça m'enlève la crampe. C'est merveilleux. Et vous adorez sous ce ciel. Et vous savez qui vous adorez maintenant, hein? Vous adorez Jésus et Jésus seul. Alors voilà le grand sacrifice. Le voile est déchiré. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et pour sympathiser à nos infirmités, il est notre souverain sacrificateur. Et comme le souverain sacrificateur juif portait les noms des tribus d'Israël sur son cœur et sur ses épaules, le Seigneur vous porte sur son cœur devant Dieu. Et le cœur, c'est le siège des affections. Les épaules, c'est le siège de la force. Alors, il vous porte sur ses épaules et puis sur son cœur. Vous êtes l'objet des affections les plus tendres du Seigneur et vous êtes assuré de la force toute puissante du Seigneur. Il vous portera jusqu'au bout. Moi, je l'ai fait. Je me suis chargé de vous dès votre origine. Je vous porterai et je le ferai jusqu'à votre blanche vieillesse. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Jusqu'à votre vieillesse. Pourquoi est-ce que vous faites du souci? Soyez joyeux. Entrez dans la joie. Dansez devant le Seigneur, si ça vous dit. Comme David, qui était dépassé à un moment donné. Les arts battent des mains, dit l'Écriture. Ben, battez aussi des mains, mais que ça ne soit pas du fabriqué. Et que ça ne soit pas pour applaudir quelqu'un qui chante un cantique. Parce que quand il chante un cantique, je pense que c'est pour la gloire de Dieu, puis qu'il n'attend pas des applaudissements. Moi, je n'applaudis jamais quand quelqu'un chante un cantique, parce que je suis recueilli. Je me dis qu'il chante pour la gloire de Dieu, mais pas pour lui-même. Comprenez-vous? Alors, on m'avait invité à un concert. Nicole Yettel était chanteuse là-dedans. C'était à la cathédrale de Lausanne. Et c'était la fille de Madame Mudrick, que vous avez connue, qui dirigeait le chœur de la cathédrale de Lausanne, et que je considère comme une fille pour moi. Mais voilà que ils ont très bien chanté, ils ont eu leur concert, c'était archi plein cette cathédrale, il y avait plus de 1000 personnes bien sûr. Mais vous savez ce qu'une chère amie qui observait ce que M. Racine pouvait faire est allée tout de suite dire à la fin du concert à Mademoiselle Mudry et à sa mère, oh, vous savez, je pense que M. Racine n'a pas aimé. Il n'a pas applaudi. Qu'est-ce qu'il y a comme espion? Pourquoi est-ce que j'aurais applaudi? On n'applaudit pas dans un temple. À moins que ce soit un concert. Mais ça, c'était un concert spirituel. Ça devait être à la gloire de Dieu. Je ne voulais pas applaudir celle qui avait dirigé le chœur. Puis si ça ne lui plaisait pas, eh bien, elle avait qu'à me le dire. On ne s'est pas brouillé pour autant. Mais vous voyez, on nous observe, puis on pense, oh ben c'est parce qu'il n'a pas aimé. C'était pas ça. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. Alors, combien trouvez-vous d'exhortations basées sur ces trois vérités? C'est clair? Vous les avez trouvées? Vous avez trouvé les trois vérités. Dans le verset 19, dans les versets 19 et 20, le sang de Jésus qui nous donne une libre entrée, la route nouvelle et vivante, et le voile déchiré. Alors, puisque tout cela, maintenant il n'y a plus d'obstacle, on peut atteindre le sanctuaire. Première exhortation, approchons-nous. Et comment s'approcher? Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Donc sans douter. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous n'allez pas être malheureux dans la présence du Seigneur. C'est fini. Vous avez une bonne conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est vrai au sens propre et au sens figuré. Parce qu'un chrétien, il se lave. Il ne sent pas mauvais. Mais dans les églises, ça sent souvent mauvais. Parce que les gens dits chrétiens ne se sont pas lavés. Que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Il y a de l'OCE dans les églises. Vous savez ce que c'est l'OCE? C'est l'odeur corporelle. Et ça renifle drôlement. Et quand ça renifle trop, les gens s'en vont. Ils changent de chaise. Ils changent de place. Et ils changent d'église. Et puis ne soyez jamais comme ce gars d'Afrique du Nord. On les appelle les pieds noirs. Mais il était une fois dans un culte où je me trouvais. Et puis dans le moment d'adoration, alors que je ne pouvais plus supporter son odeur, il a dit, Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas toujours la bonne odeur de Christ. Ça reniflait de s'essouiller. Peut-être qu'il avait l'infirmité de transpirer des pieds, mais en fait, quand on transpire, ben on se lave. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous lave spirituellement? Qu'est-ce que c'est que le lavage d'eau spirituelle? C'est pas simplement le baptême, c'est la parole. Darby traduit ça très bien dans Éphésiens. On est lavé dans nos pensées par la parole de Dieu. Le lavage d'eau par la parole de Dieu. C'est vrai cela. La parole de Dieu, quand vous la lisez, elle vous purifie. Elle purifie vos pensées. Et alors, pour entrer dans le sanctuaire, on sent qu'on a besoin d'avoir ce corps lavé par la parole de Dieu. Et Jésus l'a dit, vous êtes net à cause de la parole que moi, je vous ai dite. Celui qui a tout le corps lavé n'a plus besoin que d'avoir les pieds lavés, parce que quand vous avez cru la parole, vous avez tout le corps lavé. Mais comme vous marchez encore sur la terre, qu'est-ce qu'il faut? Nous laver les pieds, c'est-à-dire nous humilier des soudures que l'on peut contacter dans notre marche. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans le lavage des pieds. Alors Pierre lui dit, ben, lave-moi aussi la tête et tout. Alors il lui dit, mais non, tu as déjà cru, alors tu n'as plus besoin que de te laver les pieds. Vous comprenez cela ou bien c'est trop difficile? Alors, deuxième exhortation, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous doutez du Seigneur. Alors, retenons fermement la profession de notre espérance. Quelle est notre espérance? C'est d'être un jour dans la réalité, non plus seulement par la foi, mais dans nos corps glorieux, nous serons avec lui. Nous attendons du ciel Jésus comme sauveur, qui va transformer nos corps pour que nous puissions y être corporellement aussi. Celui qui a promis, qui a fait la promesse, est fidèle. Est-ce que vous pouvez vous confier en sa promesse? Alors, troisième exhortation, veillons les uns sur les autres. Donc, c'est la communion, ensemble. Un chrétien, c'est pas un homme qui vit seul. Il recherche la communion de ses frères. J'ai eu des moments où j'étais tellement découragé par ce que m'avaient fait les chrétiens que j'avais la pensée de vivre tout seul. Et le Seigneur m'a toujours repris. Par un texte des Proverbes, Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît, il est ennemi de toute justice. Et ça, ça m'a pénétré. Hein. Tu ne dois pas t'isoler, malgré tout. Cultive la communion avec ceux qui aiment le Seigneur. Et on en trouvera toujours qui aiment le Seigneur. Alors veillons les uns sur les autres. C'est pas mêlons-nous de ce qui ne nous regarde pas, mais cherchons à nous aider les uns les autres. Prenons soin des uns des autres. Et puis, veillons pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà à quoi nous pouvons nous exciter. C'est une bonne excitation, ça. 25. N'abandonnons pas notre assemblée, j'ai déjà répondu là, en passe. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Reprenez Actes chapitre 2, versets 41 et suivants. Alors, n'abandonnons pas la communion, n'abandonnons pas le rassemblement entre frères et sœurs, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez que c'était déjà de ce temps-là. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Alors, vous pourriez faire une étude sur le jour. Le jour du salut est plus près de nous que le jour où nous avons cru. Nous voyons s'approcher le jour. Le jour, c'est le moment du retour du Seigneur, où la nuit sera finie pour nous. Et alors, maintenant, les versets 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est l'apostasie. C'est avoir connu les vérités du christianisme et rejeter tout cela. Donc, ce n'est pas des gens qui ont été sauvés. C'est des gens qui ont été, comme dans le 6, des Hébreux éclairés, qui ont goûté du don céleste, qui savent ce que c'est que la vérité, mais qui n'en veulent pas. Qui ont peut-être professé un moment, et puis maintenant qui ont tout rejeté. Ça, c'est l'apostasie. C'est le rejet ouvert des vérités du christianisme. Alors, si on rejette la vérité, et cette vérité, c'est une personne, c'est Jésus, bien forcément, si vous rejetez Jésus, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Parce que le seul sacrifice, c'était celui de Jésus. Les sacrifices de l'ancienne alliance, les taureaux, les agneaux et les boucs, n'ôtaient pas le péché. Il n'y a qu'un sacrifice qui ôte le péché, c'est lequel? C'est celui de Jésus. Si vous rejetez ce sacrifice, qu'est-ce qu'il arrive? Il n'y a plus de sacrifice. Alors, s'il n'y a plus de sacrifice, vous êtes perdu. Mais qu'est-ce qu'il reste alors? Une certaine attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins, il était lapidé. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Donc, pour être perdu, qu'est-ce qu'il faut faire? Fouler aux pieds le Fils de Dieu. Ça, c'est une chose. Et puis, tenu pour profane le sang de l'Alliance, c'est la seconde chose, par lequel il a été sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Et puis, troisième chose, il a outragé l'Esprit de la grâce. Alors, vous comprenez? Pour fouler aux pieds le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était dans le ciel, dans la gloire. Il est descendu et il est allé à la croix. Il a souffert notre damnation que nous méritions. Il a fermé en quelque sorte les portes de l'enfer. Il a subi, lui, la condamnation. Et il est le plus bas possible. Et il remonte. Et vous, vous descendez. Qu'est-ce qui se produit? Derrière Jésus, c'est l'enfer. Mais il barre la route. Vous voulez aller plus loin? Qu'est-ce que vous devez faire? Passez par-dessus lui. J'ai connu un père qui, voulant retenir son enfant d'aller se droguer, alors qu'il était ce père chancelant et mourant, il s'est levé de son lit et il s'est mis dans l'encadrement de la porte, puis il a fait comme ça. Et le fils a passé par-dessus lui pour sortir. Il a dû fouler son père. Eh bien, si vous voulez être perdu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez fouler au pied le Fils de Dieu. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas une assurance? Qu'est-ce qui arrive quand moi je descends la route, puis que je rencontre Jésus, qui monte, qu'est-ce qu'il me dit? Monte avec moi. Alors on se retourne. Et qu'est-ce que c'est se retourner? C'est se convertir, puis on marche avec Jésus. Il n'y a plus de possibilité d'être perdu. Personne ne vous ravira de sa main. Mais il y a, justement, je venais dans cette direction, lui, je le rencontre, et il m'arrête, et nous remontons ensemble. Vous avez une assurance maintenant? N'est-ce pas? Vous l'avez, c'est ça la foi. Il l'a dit, je le crois. Et ensuite, il est dit que, pour être perdu, il faudrait fouler au sang le sang du Fils de Dieu. Le sang a coulé, et c'est ce sang qui est le témoignage, qui l'a expié nos péchés. Est-ce qu'on marche dans le sang? Quand vous avez vu un accident sur la route, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une mare de sang? Oh, vous allez patauger là-dedans, hein, avec des lits. Je vous ai vu. Qu'est-ce que vous faites? Vous détournez, vous évitez. On ne marche pas dans le sang. On n'estime pas profane le sang du Fils de Dieu. N'est-ce pas? On ne peut pas. Donc vous devriez marcher dans le sang du Fils de Dieu pour être perdu. C'est rare. Ah, qui peut faire quoi? À fouler au sang le Fils de Dieu, oui. Ah, ben oui. Ben bien sûr, parce que alors tu arrives au troisième, outrager l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, qu'est-ce qu'il vous dit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'esprit de la grâce, et là il vous dit, tu es sauvé. Cela a été fait. Le Christ a souffert la mort pour tous. Donc il n'y a pas une personne qui pourrait être perdue. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, si vous ne voulez pas écouter cette voix, qu'est-ce que vous faites? Vous outragez l'esprit de la grâce. Alors vous vous excluez vous-même du salut, ne vous en plaignez pas. Bien, moi je ne veux pas juger parce que je ne sais pas quel a été leur degré de connaissance. S'ils n'ont pas connu le Seigneur avant ou les vérités du chrétien, eh bien ils peuvent encore être sauvés, ils peuvent encore se détourner de Satan par lequel ils ont été pris. Mais quand vous avez connu, que vous avez professé le christianisme, puis que vous abandonnez tout ça, puis que vous allez adorer Satan, eh bien, comment voulez-vous qu'il y ait après? Il y a un endurcissement. Si tu t'endurcis, si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur, eh bien, c'est un autre qui va prendre ce cœur. Car nous connaissons celui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. Et toute bouche sera fermée devant Dieu. Et alors, comprenez-le bien, on ne peut pas se moquer de Dieu. Hein. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais vous deviez tomber dans les bras d'un père. Mais si vous ne voulez pas de ce père qui vous accueille comme il a accueilli l'enfant prodigue, qu'est-ce que vous trouverez au bout du chemin? Le Dieu vivant. Hein? Le Dieu vivant, ce Dieu dont on ne veut pas supporter l'éclat du regard, et on s'enfuira loin de lui dans les ténèbres du dehors. C'est pas Dieu qui nous jette en enfer, c'est nous qui courons la tête baissée, parce que là, nous serons à l'aise. C'est une chose terrible. Alors, pour échapper à cette condamnation, verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. C'était donc des gens qui de nouveau se mettaient un peu à douter. Mais ils n'avaient pas toujours douté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, souvenez-vous des premiers jours? Souvenez-vous du temps de votre conversion, de votre premier amour, de cette joie que vous aviez à ce moment-là, de chanter des cantiques, de jouir vraiment de la certitude de votre salut. Souvenez-vous de ce temps où vous avez été éclairé, où vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, parce que au début de votre conversion, vous supportiez l'opprobre, on se moquait de vous, on disait toutes sortes de choses, puis vous alliez quand même. Et vous étiez exposé même en spectacle aux opprobres, aux tribulations, et vous vous associez aussi à ceux dont la position était la même. On avait compassion pour ceux qui étaient persécutés. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie même l'enlèvement de vos biens. Les premiers chrétiens persécutés perdaient tout. Ils devaient s'en aller loin de leur foyer, sachant que vous aviez des biens meilleurs et permanents. Vous comprenez ce langage? On peut laisser nos biens puisqu'on en a des meilleurs. Alors, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Donc, vous n'avez pas le droit d'abandonner votre assurance maintenant. Personne ne peut vous enlever cette assurance, car vous avez besoin de persévérance. Voilà ce qu'il vous faut. Vous ne devez pas vous laisser arrêter par les épreuves, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Et la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Faites-lui confiance. Alors, verset 37, encore un peu de temps, un peu de temps, et celui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Que sa parole soit dans vos cœurs. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'attendre longtemps. Et en attendant, verset 38, le principe qui est à la base de toute vie chrétienne, mon juste vivra par la foi. Alors, on est sauvé par la foi, comme dit saint Paul aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17, sauvé par la foi et pour la foi, pour vivre une vie de foi, sans cesse renouvelée. Comprenez-vous? Sauvé par la foi et pour la foi. Tous les jours, nous croyons à nouveau devant les difficultés, car nous connaissons le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Notre âme est sauvée, ça c'est Dieu qui nous le dit, et de notre côté nous avons la foi qu'il en est ainsi. Est-ce qu'il y a une question? Vous êtes tenu encore bien longtemps. Mais on vous a offert de vous en aller.
On avait demandé la différence entre le péché qui mène à la mort et le péché qui mène à la mort.
Oui. Eh bien, le péché qui mène à la mort, ce n'est pas un péché spécifique. Le péché qui mène à la mort, pour certains, c'est la mort du corps. Hein. C'est pas la perte du salut. Il y a des personnes qui peuvent commettre une faute, et suivant la position que ces personnes occupent, elles ne peuvent plus être témoins après ce qu'ils ont fait. Et alors Dieu les retranche. C'est le cas d'Ananias et Saphira, c'était un mensonge pour eux, le péché qui les a conduits à la mort. Maintenant, ça a été le cas dans l'ancienne alliance des fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger. Ils ont pensé qu'ils pouvaient innover dans la présentation de l'encens. Et ils ont apporté un feu étranger. Ils ne se sont pas conformés aux prescriptions que le Seigneur avait données à Moïse. Alors, ils sont morts. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont perdus, mais ils ne pouvaient plus exercer la sacrificature. Dieu les a retranchés. C'est la mort du corps. À quand, dans le chapitre 7 du livre de Josué, du livre de Josué, Achan a convoité dans la ville de Jéricho de l'argent, de l'or qui devait être dévoué par interdit. Il l'a pris pour lui, il l'a caché dans sa tente, ainsi qu'un manteau de Sinar. Ces manteaux très beaux qu'on fabriquait là en Orient. Et puis, à cause de ce péché, de cette convoitise d'Achan, eh bien, le peuple d'Israël a été battu dans la bataille d'Aï. Et quand son péché a été manifesté, c'était un péché qui menait à la mort. Alors, il a été lapidé. Et puis, on pourrait prendre d'autres exemples. Et à l'heure actuelle encore, là, j'ai connu des cas aussi où le Seigneur a retranché, c'est surtout chez les serviteurs de Dieu que ça arrive, hélas, qui ont été employés par Dieu, et qui ont apporté le message à beaucoup d'âmes qui étaient considérées, puis tout d'un coup, ils sont tombés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu nécessairement leur salut, mais que Dieu les ait retranchés ainsi, c'est qu'ils ne pouvaient plus être témoins. Et alors, ce qu'ils perdent, c'est certainement la couronne qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient été jusqu'au bout du chemin. C'est pourquoi Saint Paul dit, pourvu que j'achève la course. Je ne fais aucun cas de ma vie, ni de la tienne pour préciser à mes yeux. Ce qui compte, c'est que j'achève la course, c'est que je ne tombe pas avant. Vous verrez, tout cela vous reviendra par le Saint-Esprit dans les mois qui vont venir. Vous allez vous souvenir de cette clairière, puis vous entendrez de nouveau, non pas ma voix, mais l'Esprit, qui est notre mémoire, qui va vous rappeler ces choses au moment opportun. Vous ne pouvez pas tout retenir maintenant, hein, mais tout à coup vous entendrez dans un moment où vous serez tout seul une parole qui vous revient, avec une netteté, avec une précision incroyable. Parce que je ne vous ai pas dit mes paroles, nous avons vu la parole de Dieu. Et alors, quant au péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était quand Jésus était sur la terre et qu'il faisait des miracles et qu'on ne pouvait pas nier le miracle, c'était d'attribuer la puissance qu'il avait à qui ? Au diable, hein, à Satan. Dire, il fait ses miracles par la puissance de Belzébuth. Alors, c'était impardonnable parce que le Seigneur était là. C'était blasphémer le Saint-Esprit, c'était résister à cette conviction qui venait dans votre cœur. Ben, vraiment, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Puis dire, non. Et on ne veut pas, alors on s'aveugle soi-même. Et alors, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, quand Jésus était présent sur la terre, ni dans le siècle à venir, dans le royaume. Quand il sera de nouveau visible, c'est pour ça qu'il est dit que le méchant sera retranché tous les matins. Le mal ne pourra pas subsister. Bien, je crois que le diable emploie ce verset pour troubler encore les âmes et leur faire croire qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vient à moi et qui me dit qu'il pense avoir péché contre le Saint-Esprit, je le rassure tout de suite. Parce que s'il avait péché contre le Saint-Esprit, il n'en aurait pas conscience. Comment ? Ce n'est pas pour le chrétien. Oui, mais il connaît la grâce qui lui est offerte, mais il n'en veut pas. Alors, il pêche contre l'esprit qui voudrait lui apporter cette grâce. Et il a une attitude de rebelle. Parce que si c'est vous les racheter, bien sûr que dans un sens, tout péché est contre l'esprit, si vous voulez. On marche par l'esprit. Mais moi, quand je pêche, alors que j'ai le Saint-Esprit, je sais très bien ce qui se produit. J'attriste le Saint-Esprit en moi. Et je le sens. Le Saint-Esprit est une personne très sensible en nous. Et je n'ai pas besoin de la loi pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. la présence du Saint-Esprit me dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et j'en ai tout de suite conscience. Et quand j'exagère d'un côté, ça peut peut-être être dans une plaisanterie, parce que, oui, on peut peut-être se laisser aller un peu de légèreté, puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on est au bord de quelque chose qui n'est peut-être pas très net. Et on sent qu'on est allé trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Est-ce que ça nous amène à la plaisanterie? Ça nous empêche d'aller plus loin dans la plaisanterie. C'est ce que vous trouvez dans le chapitre. Comment? Parce qu'on a la connaissance. Et on sait très bien que je suis en train de dire des choses à double sens. Donc je ne suis pas pur. Tu comprends? Et cela, on devient sensible. Mais écoutez un peu les conversations des gens quand ils se rassemblent dans un salon. De quoi parlent-ils? D'une façon plus ou moins voilée. Quelle est la grande conversation au Québec? Disait le frère un tel, qui s'appelait Monsieur Desbiens, qu'est-ce qu'il disait? Ouais. On n'avait pas besoin. LQ. Eh bien, vous remarquerez toujours que ça tourne là autour. On raconte des histoires plus ou moins grasses. Et quand on est militaire et qu'on est dans la caserne, le soir, moi j'y étais, je les ai entendus, des gens bien, c'était à celui qui racontait la plus cochonne. Et j'étais persuadé qu'il n'avait pas même fait ce qu'il racontait. Il brodait encore pour se mettre en avant. Il se glorifiait de ce qui devrait être leur honte. Vous comprenez ces paroles maintenant? Eh bien, c'est cela. Alors, quand on a le Saint-Esprit et que par nature, je peux être aussi cochon, on sait très bien que dans le cœur de tout homme, il y a un cochon qui dort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous ne connaissez pas? Je me connais. On m'a descendu du piédestal, alors je me descends tout seul. Vous avez entendu quelqu'un me mettait sur un piédestal? Et je ne sais pas s'il a remarqué qu'il y avait un cochon qui dormait dans mon cœur et il a vu que j'étais un homme. C'est ce qu'il a dit textuellement. Hein. Bon, ben je l'ai accepté. Vas-y.
Dans le code, on avait appelé ses fils et ses filles, tout ce qu'il y a.
Oui.
Pourquoi est-ce que Dieu plaît? Donc, quelle était son idée? Il n'a pas douté de sa justice. Pourquoi tout ce qui lui appartenait, c'est à quand qui avait péché en prenant l'argent? Pourquoi ses fils et ses filles n'étaient peut-être même pas là?
Ah, mais tu vois, les enfants de Corée, ils auraient dû périr avec leur père. Et ils ont été sauvés, pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de la tente. Mais dans l'histoire d'Achan, ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que une prostituée, toute prostituée qu'elle est capable de sauver toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tous les leurs. Par sa simple foi, elle arrive encore à avoir une influence telle qu'elle réunit chez elle tous les siens, elle les sauve. Mais un prince d'Israël qui a la connaissance de la vérité, qui connaît les commandements du Seigneur, et qui ne sait pas être un chef dans sa famille, qu'est-ce qu'il va perdre? Pas seulement se perdre, mais il va perdre ses enfants, sa famille. Et c'est une leçon terrible. Nous sommes responsables pour nos enfants. Mais ensuite, dans les prophètes, il est dit, eh bien, le fils ne mourra plus pour les péchés de son père, et le père ne mourra pas pour les péchés du fils. Chacun portera sa propre peine. Mais au début, Dieu voulant enseigner les âmes, devait donner des exemples. Et c'est très vrai, ça. Votre conduite, votre attitude est en bénédiction à vos enfants ou en malédiction. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de nous faire du mal à nous-mêmes. Quand on dit, mais moi je fume, je fais de mal à personne. Moi je bois, je fais de mal à personne. Vous faites peut-être du mal à votre descendance. Et il y aura peut-être un arrière-petit-fils qui maudira votre mémoire parce qu'il sera idiot. Et ma femme dit que merci. Tu voulais dire?
Non, non, c'est bien, j'accepte. Je trouve que dans un sens, ça nous montre le sérieux de la
vie. Ah, c'est sérieux. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu. Yvan, vous l'avez élu, là. Hein? Oui, Josaphat.
Dans le cas d'Aquin, le chef qui avait caché le poil intérieur de sa femme, ben, c'est M. Rotten, de ce soir le camp familial, où il y avait vu son père, et la famille était témoin, il était tenté du père.
Oui.
À l'intérieur de la tente, aussi, donc, il y avait eu le jugement, ça faisait le lendemain. Tout le temps, il était témoin de la père, avait dévoilé, comme les fils de soirée, il aurait probablement été fermé.
Eh bien, Josaphat, je te remercie parce que je ne me souvenais plus d'avoir dit ça. Maintenant, je me rappelle que j'ai dit ça, mais tu es un vrai magnétophone. Hein, tu as vraiment enregistré ça. C'est magnifique, je te félicite. Parce que c'est ça, parce que ça m'a été donné cette nuit-là. Justement, pourquoi? Parce que j'étais préoccupé par cela aussi. Et parce qu'on a dit pourquoi est-ce que ça n'est pas tombé tout de suite sur lui, hein. Il y a eu une nuit. Donc, les enfants pouvaient dénoncer leur père. Parce qu'ils ont tiré au sort. Hein. Personne n'a dévoilé la chose. Or, il ne pouvait pas cacher ça dans sa tente. Il avait dû faire un trou sans que sa famille le sache. Ils ne se sont pas désolidarisés du péché du père. Il y a une autre question ? Oui. Le Seigneur donne à tous une occasion. Et je vous dis, pour qu'un homme soit perdu, il aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Alors ne me dites pas que Dieu n'est pas amour. Et c'est pour cela que la bouche devant le tribunal de Dieu, il est dit que les bouches seront fermées. Dieu ne condamnera personne parce qu'il est né pécheur ou parce qu'il a commis des péchés, mais il lui dira, tu étais pécheur, tu as commis des péchés, c'est vrai, mais je t'ai offert la grâce. Pourquoi l'as-tu pas accepté?
Dans Romains, quand tu dis Romains, le chapitre 1 ou 2, 1, 18,
oui, la colère de Dieu.
La colère contre l'humanité, à ce moment-là, est-ce que d'avoir contacté Dieu dans sa création, de ne pas l'avoir cherché comme Dieu, serait d'avoir fouillé au Dieu, le Fils de Dieu, si on fait ça jusqu'à maintenant?
Oui, eh bien, c'est déjà. Les œuvres de la création nous rendent inexcusables de ne pas chercher Dieu. Ayant connu Dieu par les œuvres qu'il avait faites, et puis par la loi morale qu'il nous a donnée, qui était écrite dans notre cœur, puis nous avons une conscience, mais si vous refusez la voix de la conscience, si vous refusez le témoignage de la création, vous êtes inexcusable. Et il est dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. On l'a connu, Dieu. On ne l'a pas glorifié comme Dieu. Et ils devinrent vains dans leur intelligence, leur cœur destitué d'intelligence, et tombés dans les ténèbres, se disant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image. Et vous voyez, l'image d'homme corruptible, d'oiseau, ça descend, puis de quadrupède, et puis de reptile. Puis j'adorais ça.
Ouais. Je pense qu'il y a juste plus de juger ce que c'est là quand même, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment ce que c'est dans le cœur de l'homme. On peut dire donc qu'il fait telle et telle chose, telle et telle chose, le définir comme tel.
Non, mais c'est pour ça que je te dis le péché aussi. Comme le péché qui mène à la mort, ce n'est pas un péché spécifique.
Oui, c'est pas quoi, c'est...
Mais le péché qui perd, c'est une attitude, c'est pas un acte d'abord. C'est l'attitude, c'est le refus de l'amour. C'est le refus du Sauveur. Vous méprisez ce que Dieu a de plus précieux, son Fils. Et c'est pourquoi il est dit que ce n'est pas même Dieu qui jugera, Dieu le Père, c'est le Fils. Parce que c'est le Fils qui est mort. Et il était mort pour tous. Si vous n'avez pas voulu de sa mort, c'est que vous vouliez votre perdition. Ce n'est pas Dieu qui a voulu la perdition des hommes. Mais nous devons quand même les réveiller le monde, réveiller les âmes, parce qu'ils se foutent éperdument de Dieu. Il n'y a qu'à voir simplement comment son nom est blasphémé, comment son nom est pris en vain. J'ai mieux entendre un Français dire les saintes lettres que... d'entendre toujours sacré avec les choses saintes. C'est inouï. C'est une chose, moi, que je ne comprenais pas du tout au Québec. Pourquoi c'est toujours des noms d'église, calice, sacristie, hostie, tabernacle, tabarouette, je ne sais pas quoi. Je les entendais au camp Jolibé il y a quelques années, des gosses qui disaient ça. À tout moment, ça sortait. Puis moi, je comprenais pas. C'est un étranger. Puis un jour, j'en ai entendu un qui disait à l'autre, il commençait d'être un peu réveillé dans sa conscience, « Pourquoi tu dis pas cathédrale, il y a tout dedans ?» Mais par exemple, aussi une chose dont on devrait se corriger. Quand vous dites mon doux, qu'est-ce que vous dites? Mon Dieu. Vous nous direz, oui, mais c'est pas grave. Mais il est dit, tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors, il y a des choses qui doivent se corriger même dans notre langage. Comprenez-vous? La conversion, elle arrive à nous faire, à nous donner un autre langage. Il y a des paroles qui ne passent plus. Et ça, Esaïe l'a compris quand il a eu la vision du Seigneur. Il dit, je suis un homme aux lèvres ainsi. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres ainsi. Je me souviens d'un professeur de théologie que j'aimais beaucoup, qui est mort, et qui me racontait que, en venant à Nice, j'habitais Nice à ce moment-là, il avait été chez un pompiste là, pour prendre de l'essence, ici vous dites du gaz, hein, pour sa voiture. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Et le garagiste a dit « Nom de Dieu !» Et mon ami, la Georges Serre, lui a dit « Vous ne pouvez pas laisser Dieu tranquille ?» C'était le commencement d'une conversation, mais ça sort comme ça. Oui. Comment? Oh, ma femme me fait des amers reproches. Elle dit que la première cloche va sonner. Alors, devenez clochard. Je ne les enracine pas.
Il nous dit là.